Hey, how you doing?
Bienvenue au bureau des légendes.
Somebody royally forked up.
Un épisode et j'arrête.
Dracarys.
Une émission présentée par l'ACS.
C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. T'es viré.
L'association des critiques de séries en partenariat avec Beta Série, la radio.
These violent delights have violent ends.
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Séries, en partenariat avec Beta Série. Actuellement quatrième service de streaming dans le monde, derrière et dans cet ordre Disney+, Prime Video et Netflix en tête, Max débarque en France. Alors Max, c'est qui ça ? Ou plutôt, c'est quoi ? C'est la longue gestation d'une nouvelle plateforme alliant HBO, Discovery Channel et qui a cherché sa forme à l'étranger, traînée sur diverses chaînes et plateformes chez nous avant de s'assumer pleinement à partir de ce mois-ci, juin donc. Et alors, cet énième service sur abonnement, est-ce qu'il vaut vraiment la peine ? Quels en sont les contenus phares ? En aura-t-on pour son argent avec Max ? C'est ce que nous allons voir avec mes chers collègues. Donc je m'appelle Yves Lecor, je suis journaliste indépendant et pour m'accompagner sur ce numéro, je remercie Thibaut Gomez-Léal. Salut.
Salut.
Donc chef de rubrique sur le site Les Numériques et Ilan Ferry, donc journaliste pour Lire Magazine Littéraire.
Salut.
Salut. Donc Ilan, tu te charges d'ailleurs je crois de la carte blanche à la fin de ce numéro et de quoi tu vas nous parler cette fois ?
Je vais vous parler d'Entretien avec un vampire.
Ah, souvenir, Entretien avec un vampire. Très bien, on voit ça en fin d'émission et en attendant donc un épisode et j'arrête spécial Max, la nouvelle plateforme SVOD, c'est parti. Ça me rappelle quelque chose, ça, ce jingle. Donc les fans auront reconnu sans mal le jingle HBO qui a ouvert nombre de séries cultes et futurs classiques de l'histoire de la télévision. Je pense même que ça a dû motiver quelques envies de travailler dans la série autour de cette table, c'est possible. Donc cette HBO appartient au groupe Warner Bros. Studios. Donc, studio hollywoodien qu'on ne présente plus, hein, Harry Potter, Batman, Dune, enfin des grosses sagas comme ça, qu'il a tendance à répéter à foison. Et cette grande pourvoyeuse de séries qu'est HBO, elle débarque en France à l'intérieur d'une plateforme de streaming qui inclut les chaînes Warner, Discovery, CNN, TBS, la chaîne des programmes DC Comics... Et même Eurosport de chez nous, le tout dans une même offre. On va voir un peu tout ça, la gestation de cette plateforme qui est très complexe. Et du coup, qui représente au final près de 18 500 heures de programme que vous pourrez retrouver dès le mois de juin, dès ce mois-ci. Et ça, en gros, de quoi nous occuper au moins jusqu'à la fin de la semaine, je pense. Donc, l'arrivée de Max par à coup en France, comme l'arrivée de Max sur l'ensemble des territoires, ça a été un parcours très complexe, donc comme je disais. Et du coup, Thibaut, tu vas peut-être un peu nous faire... Est-ce que tu peux essayer de nous résumer tout ça de manière claire et concise ?
Alors, vois que... c'est à moi que
t'as ramené tes présentations, là, ton...
Mes 1000 PowerPoint pour résumer l'histoire complexe de l'arrivée de Max en France. Et oui, effectivement, tu l'as dit... Elle a pris du temps, elle a pris son temps, cette plateforme Max, pour arriver dans l'Hexagone. Alors déjà, il faut savoir que le service de streaming, c'est déjà un projet un peu lointain pour Warner Media. C'est un projet qui remonte déjà à 2017-2018. Ils l'ont comme ça dans les tuyaux depuis plusieurs années. Il est d'abord annoncé vraiment fin 2019 sous le nom de HBO Max, ce service de streaming, pour être finalement lancé en 2020 aux États-Unis. En 2021, HBO Max est annoncé dans 60 autres pays dans le monde et est même lancé dans plusieurs pays européens, l'Espagne, la Suède, l'Andorre même. Donc comme ça, des petits pays à droite à gauche.
Mais il y a si longtemps que ça, quoi.
Mais il y a si longtemps que ça, déjà. Ouais. Mais toujours pas en France. Mmh. En France, nous, pour l'instant, au même moment, on a les séries HBO qui sont sur OCS. HBO Max, on regarde ça de loin, mais on n'y prête pas trop attention. C'est encore bien lointain. Mmh. Du côté français... On nous promet le service pour 2023, on nous dira ça arrivera l'année prochaine, dans deux ans, attendez bien, attendez tous, le temps que, évidemment, les droits locaux français s'achèvent, parce que, effectivement, je viens de le dire, les séries HBO sont tranquillement sur OCS, il faut attendre que les contrats aillent à terme et que les droits locaux se terminent tranquillement.
Française, etc.
Exactement. Mais l'histoire de Max, elle est liée, bien sûr, à la société Warner Media, qui a connu en 5 ans pas mal de bouleversements depuis 2018. Mm-hmm. Ainsi, au milieu de tout ça, en 2022, son propriétaire AT&T, qui est un géant de la télécommunication américaine, fusionne WarnerMedia avec le groupe Discovery. Tu l'as dit, qui a Eurosport, TLC et tout ça. Mmh. Pour devenir le mastodonte qu'on connaît aujourd'hui, Warner Bros. Discovery. Et la sortie du coup de la plateforme en France, elle est repoussée d'un an, parce qu'évidemment, cette fusion, il faut remettre tout à plat, il faut revoir la stratégie. Bref, tout ça, effectivement, ça repousse le calendrier de sortie de Max en France. Le Covid, tout ça, bref. Ce ne sera pas 2023, on verra plus tard. En attendant, en France, le programme Warner, dont HBO, se retrouve sans maison, parce que pendant ce temps-là, les droits OCS ont expiré. Mais pas de panique, Prime Video est là pour dire... Attendez, c'est bon, moi, HBO et Warner, je le récupère.
J'ai
et
un entrepôt,
propose,
je peux stocker.
Voilà, le Pass Warner à partir de mars 2023. Et du coup, maintenant qu'il n'y a plus OCS, c'est le Pass Warner qui a récupéré comme ça toutes ces séries-là pour les loger pendant cette année et demie, jusqu'à cette date effectivement fatidique de juin 2024 où on sait que Max va arriver dans l'Hexagone. Et oui, vous avez compris, HBO Max, entre-temps, a perdu son HBO, a été transformé en simplement Max, puisque du coup, pendant la fusion, ils ont dit on va rebrand complètement, on va changer de nom, on va changer de marque, et du coup, cette service de streaming va s'appeler tout simplement Max. Alors c'est vrai que entre l'Espagne, la Suède ou même Andorre, qui avait techniquement la plateforme depuis 2021, et la France, qui va l'avoir le 11 juin 2024, ça fait un sacré périple.
Ouais, et puis ça fait bizarre de changer de nom aussi vite après son lancement, c'est jamais très bon signe.
C'est vrai que tu lances HBO Max et après, trois ans après, tu changes de nom, c'est bizarre.
Ouais, c'est clair. Ilan, toi, t'en penses quoi du coup? Parce que c'est vraiment très complexe, là, la gestation.
C'est ultra nébuleux et Thibaut a fort bien résumé tout ça. Après, il y a aussi un autre élément à prendre en compte chez nous, c'est la fameuse chronologie des médias, ouais, qui, à mon avis, a aussi beaucoup dû jouer. Ça a été... une foire d'empoigne entre Disney et les exploitants, par exemple, il y a un an ou deux, en plein post-Covid.
On imagine... Parce que du coup, on est les derniers, oui.
On est les derniers, on est toujours servi les derniers. Moi, ce qui m'interroge surtout, c'est comment, justement, Max va pouvoir se démarquer aujourd'hui. On a l'impression un peu que Max va peut-être arriver après la guerre. Dans le sens, on a eu une profusion de plateformes. Mmh. On a eu, voilà, tu l'as dit, on a Netflix, on a Disney+, on a Paramount+ aussi.
Voir comment,
comment il va.
M6+, TF1+, enfin
plus les Kobe, les trucs, tous les petits, toutes les petites plateformes.
On a trop de plus, tu le plus. Donc, à voir comment il va se démarquer, s'il va pas justement, non pas bénéficier, mais justement être handicapé par l'effet d'engorgement des plateformes.
Mmh. Ouais. Et pour pour son lancement français, là, donc le lancement français, la date précise, c'est le 11 juin, donc ce podcast est déjà sorti, donc à ce moment-là, Max part avec un prix d'appel plutôt bas, donc un abonnement mensuel à 5,99€, mais avec de la publicité, un truc sur lequel les plateformes sont tâtonnes, hésitent, ont un peu peur. Donc c'est 5,99€, publicité sur deux écrans seulement. On passe ensuite à 9,99€ si on veut pas de pub, et 13,99€ tout de même, hein, par mois pour quatre écrans. Donc il sera bientôt possible de regarder ces contenus, je rappelle HBO, Warner, Discovery, DC Comics, CNN, TBS... et Eurosport sur une même plateforme pour ces tarifs-là. Mais du coup, ces tarifs-là, ils vous paraissent comment? Est-ce que ça paraît raisonnable si on compare avec les autres plateformes? Qu'est-ce qu'on aura de beau aussi à l'intérieur de cette plateforme? Parce que niveau nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les séries, pas Eurosport. Donc, par exemple, toi, tu penses quoi, Hélène?
Je pense que le prix me paraît raisonnable par rapport à la concurrence et surtout par rapport à la richesse du catalogue. Mmh. Parce qu'on ne va pas avoir que des séries. On a 18 500 heures quand même. Ouais. On va quand même avoir l'intégralité du catalogue Warner et tout ce que ça implique. Donc, ça va venir au fur et à mesure. Mais je crois qu'au lancement, on a déjà une quarantaine de séries et de films qui sont proposés. On en a certaines qui sont inédites, d'autres qui sont cultes comme The Wire, par exemple. Ouais. Et on imagine bien que le catalogue va continuer à s'étoffer encore et encore. Donc, oui, pourquoi pas. Le prix est raisonnable par rapport au potentiel. Ce qui me questionne, moi, c'est la durabilité du prix. C'est-à-dire qu'on a vu les plateformes, au fur et à mesure, augmenter à chaque fois leur prix, changer de business model, se tâter avec pub, pas pub, comme tu le disais tout à l'heure. Ils y vont direct. Ils y vont direct pour leur première offre.
Ouais.
Prime, eux, ils te mettent la pub. Et tu dois augmenter de 1 ou 2 euros, je crois, si tu veux pas avoir de pub. Donc, ouais. À voir par rapport aux autres. Est-ce que, justement, Max va pas à terme faire comme ses petits camarades et augmenter ses prix au fur et à mesure. Ce qui est intéressant là, c'est que Max est intégré à un certain nombre d'offres. Via des partenariats avec Canal+, Free, donc une manière, une porte d'entrée assez intéressante.
Et Canal+, ça fait un beau coup là-dessus, ouais. D'ailleurs. Oui.
Donc voir ce que ça va donner, sur le long terme.
Alors moi, pour compléter effectivement ce que dit Ilan, c'est raisonnable, mais je trouve ça raisonnable, mais pas en même temps très exceptionnel, dans le sens où, en fait, quand on y regarde bien, Max se cale sur ses petits camarades, c'est-à-dire sur la grille tarifaire de Netflix et de Disney+, qui proposent peu ou prou les mêmes tarifs. Disney, ils ont aussi une offre à 5,99 avec pub, Netflix idem, ils ont leur offre premium qui est à 13,99 et des brouettes, donc il y a peu ou prou comme ça, toujours ce même carcan, sachant que nous, il y a un effet un petit peu bizarre, dans le sens où, en fait, pour nous, c'est une nouvelle plateforme, alors qu'en fait, cette plateforme existe déjà depuis 5 ans, depuis 4 ans aux États-Unis, et donc entre guillemets, elle est pas neuve, et elle a déjà fait tout ce chemin d'être du cheap streaming au début, d'être pas cher pour attirer tout le monde, et après d'augmenter ses prix petit à petit, d'ajouter l'offre avec pub dans un second temps. Donc en fait, tout ce chemin que nous, on a vécu avec Netflix, Disney+, Max, elle l'a déjà fait, mais aux États-Unis. Donc nous, on l'a pas vu. Donc en fait,
c'est pour ça qu'il y a pas un tarif.
C'est pour ça qu'ils arrivent départ, directement, parce que en fait, toute la partie augmentation de prix et ajout de la pub, ils l'ont fait sur d'autres territoires avant, et ils ont suivi mine de rien tout le monde. Comme tu l'as dit, leur gros argument, ce sera effectivement leur catalogue, ce sera HBO, ce sera tout ça. Mais ils vont surtout guetter cette rentabilité qui est devenue extrêmement importante. L'ère du cheap streaming est terminée. Le streaming pas cher, le streaming accessible, c'est finito. Maintenant, c'est soit tu payes, soit tu as de la pub. Et surtout, il y a un élément qui est important, c'est que maintenant, après 5 ans, 6 ans, on va dire, d'explosion comme ça des plateformes de streaming, ces plateformes, elles doivent devenir rentables. Netflix l'est enfin devenu, Disney y arrive un petit peu, et maintenant ça va être Max va devoir enfin gagner de l'argent avec sa plateforme de streaming, ce qui est encore loin d'être le cas. Donc voilà, effectivement, ça sera un des enjeux majeurs de Max.
Ouais, juste ajouter un petit truc par rapport à ce qu'on disait concernant Netflix. C'est pas tout à fait la même offre que Netflix, parce que Netflix te propose le 4K et les 4 écrans pour quasiment 20 euros.
Oui, t'as 20 balles.
Ce que Max propose pour 13,99€.
Il y aura du 4K aussi.
Oui, il y aura du 4K aussi. À voir si ce sera du vrai 4K ou pas. mais on peut se poser aussi la question de la qualité du flux. De quelle qualité sera le flux, parce que
est-ce que ce sera sur tout le catalogue, est-ce que ce sera sur quelques séries seulement Voilà, on l'a vu sur Pat Warner et Prime Video, on voit que c'est pas forcément.
Et c'est vrai que là, pour le coup, la sœur, c'est une sœur de Disney, pour le coup, parce qu'on est sur des chaînes qui déterminent des programmes. On n'est pas sur Netflix et Prime qui vous balancent des choses qui viennent de partout et il faut trier. Là, ça caractérise quand même aussi des cibles et des typologies de public.
C'est vrai qu'on a eu une présentation le 30 mai de Warner France qui nous ont présenté un petit peu la plateforme. On a vu une petite utilisation, mais très succincte, de la plateforme. Elle ressemble comme ça de visu un peu visuellement à Prime Video, c'est-à-dire avec ce moteur de recherche horrible où tu galères pour trouver des trucs. Et en même temps, il y a cette segmentation à la Disney avec ses grands espaces, ses grandes franchises, ses grands mondes. Disney fait du Star Wars, du Disney, du Marvel, du machin. Là, HBO, Warner, ils font Max, ils font HBO, ils font Discovery, ils font Eurosport. Donc il y a comme ça une segmentation visuelle qui permet de rentrer dans des espaces, dans des mondes après coup. Et du coup, il y a des portails dédiés, des choses comme ça. Donc à voir comme ça, là, on verra comment ça se déploie vraiment à l'utilisation. Mais visuellement, ça ressemble un petit peu à cet entre-deux entre Prime et Disney+. Ouais.
Mon oncle est un défi que je relèverai s'il ose se confronter à moi.
Nous triompherons et instaurerons la paix. Mais tu dois accepter qu'aujourd'hui, le chemin vers la victoire passe par la violence.
Bien. En route pour la guerre.
Bon, en VF, je sais pas si beaucoup vont s'y retrouver. En route pour la guerre.
De quelle série
Moussaillon, mais de quelle série s'agit-il? Mais bon, donc en fait, il s'agit d'un lancement, donc avec le lancement de cette plateforme se fait avec un très très gros coup, qui est la saison 2, très attendue, du préquel de c'était Game of Thrones, House of the Dragon.
La maison du dragon.
C'était la maison du dragon sur le trône de fer, donc qui sort le 17 juin, donc juste après le lancement. Ouais. Donc juste comme il faut pour attirer le chaland, comme on dit quoi, dans le milieu
sacré
du commerce.
Sacré produit d'appel. Hein, ouais.
Très bon produit d'appel, mais ils ont aussi pensé aux vieux de la vieille, à ceux qui sont sur du streaming, genre remontrez-moi mes trucs que j'aimais bien avant, parce qu'aujourd'hui on ne fait plus que de la merde. De l'autre côté du spectre, on trouve une valeur sûre, rassurante, pas du tout nouvelle pour le coup, c'est Friends. Donc il n'y aura pas de nouvelle saison, hein, non, c'est Friends, le bon vieux classique, celui qui a participé à maintenir le succès de Netflix pendant le confinement, pendant des années, un peu comme avec The Office. Cette idée d'une bonne Madeleine, donc, et qui va beaucoup manquer, au public de Netflix. Il va peut-être même y avoir quelques désabonnements pour le coup, c'est peut-être pas surprenant, ça serait pas surprenant. Et donc, ils vont être retirés juste avant. Ils vont être retirés très bientôt, en fait. Mais par contre, ils arriveront en juillet. J'ai cru lire justement il n'y a pas longtemps. Ouais. Ce ne sera pas en même temps que House of Dragons, mais que Maison de Dragon. Mais donc, du courant juillet, début juillet, Friends sera disponible en intégralité sur la plateforme. Et Warner récupère son bébé qui l'a fait fructifier sur tellement de plateformes, tellement de chaînes à travers la planète. Et ça devrait être logiquement aussi un très gros coup comme House of the Dragons sur sa saison 2 octobre. Ça vous évoque quoi, vous, pour ce lancement, d'avoir ce genre de produit d'appel sur cette chaîne ? Thibaut, tu...
C'est marrant parce qu'on a deux assets, deux propriétés intellectuelles de fortes et de qualité. D'un côté, on a de nouveautés très attendues. House of the Dragon, la saison 1 était sortie il y a 2 ans, souvenons-nous. Ouais. Là, c'est la saison 2, extrêmement attendue. En plus, c'était une série de qualité, donc à la fois succès public, succès critique. Donc, cette saison 2, tout le monde l'attend. C'est l'une des séries de l'année, évidemment.
Beaucoup plus que les Seigneurs des Anneaux, ça,
voilà,
c'est
beaucoup plus que les Anneaux de Pouvoir. Et de l'autre côté, comme tu l'as dit, il y a Friends. Et ça résume peut-être un petit peu la philosophie de Max, c'est-à-dire qu'on va miser sur notre catalogue. Et pour en avoir discuté avec Clément Schwebig, qui est le président de Warner Bros. Discovery Europe et Afrique, son discours est malheureusement, enfin, j'ai dit malheureusement, mais c'est quand même un petit peu celui qui a le plus gros, quoi. C'est un peu... notre catalogue est plus fort, notre catalogue est plus gros, et vous verrez, vous pouvez venir et vous retrouverez tout ce que vous aimez, etc., etc., etc. Ce jeu du catalogue, il fonctionne, il va fonctionner parce que, comme tu l'as dit, il y a des franchises phénoménales dans Warner. C'est quand même l'une des grosses cartes à jouer de Max.
Ensemble,
tout ça réunit.
Tout Harry Potter.
Donc là, c'est impressionnant.
Tout Dune.
Mais attention, parce que cette limite de qui a le plus gros catalogue, ça a ses limites, cette logique-là. Et si Max, au-delà de ses grosses franchises, ses gros programmes, n'arrive pas tous les mois avec du contenu frais et des choses comme ça, ils peuvent finir rapidement, comme Disney+, à arriver avec 2 films, 2 séries nouveaux par mois, et puis finalement les gens sont déçus et partent du service. Donc c'est bien de jouer. Ça dit beaucoup sur le fait que Max mise sur son catalogue, et il a raison. Par contre, il ne faut pas qu'il s'arrête là, parce que le bilan dans un an risque d'être sévère, en tout cas s'il n'a que son catalogue à offrir, impressionnant soit-il.
Mmh. Yann, toi, tu...
Oui, je pense qu'effectivement, Max joue la sécurité et n'a pas trop le choix, justement, parce que la plateforme se doit de sortir l'artillerie lourde si elle veut survivre. Et ça passe par les licences, comme on a dit, les grosses licences, mais également par la fibre nostalgique. J'en viens à ton introduction de tout à l'heure. Max, c'est aussi... Bon, c'est Warner, c'est toute une histoire du cinéma, de la télé. Mais voilà, on a un cœur de cible qui est aussi les ados, ceux qui étaient ados dans les années 90 et 2000. On va avoir du Friends, on va avoir du Gossip Girl, le Prince de Bel-Air... une petite nouveauté.
Pas mal de CW, oui.
Avec la série animée sur les Gremlins, pourquoi pas. Mais ça encore... On titille la fibre nostalgique des années 80. Donc j'ai l'impression que, en dehors de ça, comme tu dis, Timo, il va falloir que Max propose des contenus inédits. Ça pourra peut-être passer par la France, parce qu'ils vont sortir deux séries françaises, dont une consacrée aux attentats du Bataclan.
Ça,
avec
ça a l'air très prometteur,
Calamy,
ça. Ouais. Ouais.
Une amie dévouée, ouais, avec Laure Calamy.
L'histoire de base du fait divers était assez hallucinant. Mais, ouais.
Réalisé par juste Philippot, qui avait réalisé Acide, donc... Ouais. On voit quand même qu'il y a une volonté, si ce n'est de...
Une obligation.
Une obligation.
Quand on vient en France, on est obligé aussi de voir du contenu français.
Mais, pourquoi justement, Max ne serait pas le fer de lance aussi d'un HBO à la française ?
Ah, il faut déjà beaucoup formidable. De partenariats avec Canal+, avec la BBC, il y a déjà une branche européenne, enfin, il y a déjà beaucoup de collaborations avec l'Europe là-dessus, donc ça devrait se faire normalement assez logiquement, des partages de production entre l'Europe et les États-Unis avec HBO, ça peut être un bon...
Bah, faudrait pas que ce soit un épiphénomène, quoi. Faudrait pas qu'on ait juste une fois de temps en temps un Tchernobyl, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'il faudrait qu'on ait quand même quelque chose, un rythme de croisière assez...
Ou Marseille. C'est ça qu'on avait eu.
On avait Marseille, nous.
Mais c'était Marseille, c'était... c'était ça, le gros coup, là.
Chaque pays a les productions qu'elle mérite.
Mais ils vont proposer Sambre, étonnamment d'ailleurs, au lancement. Ils vont proposer donc Sambre, qui est la série France Télévisions.
Ouais, mais t'as toujours des trucs comme ça. Ouais.
Et là, ils l'ont présenté au lancement presse, et étonnamment, ils vont l'avoir dans leur catalogue le 11 juin. Donc
comme Netflix
pas.
Avait eu 10%.
Exactement.
Comme
donc
ça.
Effectivement, ils misent sur Sambre, qui a été un très beau succès l'année dernière.
Les critiques aussi, ouais. On en parle souvent
donc,
ici.
Pourquoi pas. Il faudrait qu'ils creusent ce sillon-là, ouais, tout à fait.
Ouais. Mais bon, dans tout ça, la tête de proue de Max, c'est bien sûr, on en parle depuis le départ, donc voilà, c'est HBO. Ces séries sont connues, adulées dans un pays comme le nôtre, qui ne les a pourtant... diffusé que de manière disparate ou sur des chaînes pas vraiment mainstream comme Canal Jimmy en son temps, OCS, la plateforme Prime récemment, donc avec des contenus payants qui étaient une vraie pub pour le Max du coup, là, pour Prime, en balançant un épisode gratuit, puis derrière t'achètes pour
c'est
voir
le
reste du contenu, c'est ça qu'ils font, ouais. Un épisode gratuit, puis tu regardes plus longtemps, c'est le principe du peep show, quoi.
L'équivalent du supermarché où ils te font goûter un produit, vous voulez goûter un bout de jambon, et regardez, il y a la plaquette dans
on
le.
On n'a pas les mêmes références, ça fait plutôt penser à un peep show, on te fait descendre le rideau si jamais tu veux voir plus. En tout cas, désormais, on peut parler d'un véritable changement d'époque pour la chaîne, hein, qui devient non pas un truc d'initié ou, il faut dire, en France, soyons honnêtes, c'est le téléchargement illégal qui a fait la réputation de HBO, quoi. Je veux dire, c'était tellement disparate entre les différentes chaînes qui passaient la série tard le soir parce qu'elles sont, elles peuvent être un peu crues, elles peuvent avoir du sang et du sexe, que du coup, c'est, à part quelques très gros succès comme Sex and the City ou des choses comme ça, on n'a pas. C'est une chaîne qui a été surtout popularisée par le streaming. Le meilleur exemple, c'est Game of Thrones, que tout le monde avait vu, tout le monde pouvait en parler à la machine à café le lendemain, même si personne ne l'avait ou très peu de gens étaient abonnés à ECS. Donc, on a eu tous ces allées et venues sur HBO et désormais, on peut parler d'un véritable changement d'époque pour cette chaîne particulièrement, qui devient, on pourrait dire, global là, pour le coup, parce que c'est, là, ça y est, elle est dans tous les pays et on pourra la voir quand on voudra sans avoir à passer par différents biais. J'ai envie de clore un peu le sujet en vous demandant simplement HBO, est-ce qu'elle fait toujours rêver aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que c'est culte, mais il y a eu beaucoup de chaînes derrière pour suivre son modèle. Et qu'est-ce que cette plateforme, la plateforme Max, augure pour cette chaîne ? Qu'est-ce qu'elle va devenir au sein de ce monstre protéiforme ? Selon vous, Ilan ?
Moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'avant HBO, c'était les séries HBO, c'était un peu des séries de niche. C'était vraiment un peu les gens éclairés qui regardaient les initiés, qui regardaient des séries HBO et qui se démerdaient par différents biais,
voilà.
Mais qui pouvaient être légaux. Enfin, Canal Jimmy, c'est comme ça que j'ai découvert Les Sopranos, par exemple.
Et en VO.
Et pour moi, voilà, c'est toujours synonyme de qualité, aujourd'hui encore. On parlait d'House of the Dragon, moi j'avais beaucoup aimé The Last of Us. Ça reste quand même extrêmement qualitatif.
Lotus, Succession.
Voilà, même si totalement intégré au sein d'un gros groupuscule qui est Warner. Donc, je pense que cette fenêtre ouverte sur HBO, cette porte d'entrée vers des séries qui étaient un peu plus confidentielles à l'époque et qui, gagneraient à être redécouvertes. Je pense par exemple à The Wire. The Wire, ça reste un plaisir d'initier. Quand moi je dis la meilleure série au monde, c'est The Wire, il y en a beaucoup qui me disent quoi ? Voilà, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, j'ai très, très peur, à un moment donné, pour OCS, quand ils ont annoncé qu'ils arrêtaient leur partenariat avec... Qu'est-ce qu'ils allaient devenir ? J'en parlais autour de moi et j'avais beaucoup de gens qui me disaient « Moi, je vais arrêter mon abonnement OCS parce que si je ne peux plus voir Game of Thrones, je ne peux plus voir certaines séries HBO... »
Peut-être de gondole, là, pour
voilà,
le coup.
Ouais. Voilà, je pense que c'est vraiment le produit d'appel HBO de cette plateforme et la principale raison pour certains, à mon avis, d'y opter au-delà du catalogue Warner. C'est-à-dire que quand on est connaisseur en série, quand on est amateur de série, on connaît forcément HBO, et avoir cet accès direct à toutes les séries HBO, j'espère en tout cas qu'au fur et à mesure, à terme, on aura accès à toutes les séries. C'est voilà, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Moi, je rêve de revoir la caravane de l'étrange, par exemple.
Mais tu l'as dit, ce qui va vraiment changer, et je pense que ce sera très intéressant de refaire la même émission dans 10 ans, parce qu'il y aura véritablement un avant et un après Max pour HBO, c'est que c'est la diffusion. C'est que HBO, pendant des années, et même pour les Américains, HBO, c'est une chaîne payante, c'est un truc qu'il faut que tu prennes en plus, il faut que tu débourses de l'argent. C'est pas quelque chose, tu allumes ta télé et c'est automatique. Là, alors nous, effectivement, tu l'as dit, en France, pour trouver des programmes HBO, ils étaient tellement éparpillés que c'était une galère, mais également pour les Américains, il y avait comme ça des... C'était pas inévident, ces HBO. Et là, le fait que ce soit dans un package, que ce soit inclus dans Max, ça va quand même ouvrir comme ça les...
Et clarifier les choses.
Ça va clarifier les choses pour beaucoup d'utilisateurs qui n'ont pas envie de s'embêter avec des options payantes, des petits astérisques, des petits alinéas, des choses comme ça. Tout de suite, tu ouvres ta télé, HBO va être là. Et ça, ça va ouvrir vraiment les horizons, et je pense que ça va forcément... ouvrir le public de le contenu HBO à des publics nouveaux, et donc par un mécanisme simple, ça va forcément bouger et faire évoluer, faire muer HBO. Donc je pense que le HBO qu'on a aujourd'hui dans 10 ans ne sera plus le même, parce que HBO forcément va commencer à produire du contenu, à produire des programmes, à faire des séries, à faire des films, à faire des documentaires pour des publics qui ne touchaient pas forcément simplement avant, comme tu l'as dit, HBO c'était synonyme d'un certain public un peu aiguisé, un peu certain, un peu adulte forcément. C'est des séries qui sont pas faciles à regarder tout le temps, HBO. Là, HBO, peut-être en étant dans Max, ils vont peut-être s'ouvrir à d'autres horizons, et il y aura comme ça ils vont se déteindre l'un sur l'autre, le public va déteindre sur HBO et inversement, et ce sera très curieux de voir à quoi va ressembler HBO dans 10 ans. Ce sera très très intéressant.
On veut qu'elle devienne pas mainstream.
c'est l'un des risques.
L'un des risques aussi, ouais.
La carte blanche de l'ACS.
C'est le moment du coup de cœur ou du coup de gueule de ce numéro. Et aujourd'hui, c'est Ilan qui s'y colle. Alors, Ilan, tu vas nous parler, tu disais, d'Entretien avec un vampire.
Voilà, une série dont je suis devenu vite mordu.
Le
film est sympa. Alors, depuis quelques années maintenant, on voit l'émergence d'un véritable sous-genre en soi, qui est l'adaptation d'œuvres littéraires, qui était quelque chose qu'on ne voyait pas encore il y a quelques années. Il fallait se tourner vers des productions de la BBC. Parmi la multiplicité de séries adaptées qui arrivent chaque mois, il n'en est une qui tire habilement son épingle du jeu, et c'est donc Entretien avec un vampire. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais quitté leur Carpate natale, une piqûre de rappel s'impose. Écrit en 1976, Entretien avec un vampire d'Anne Rice a redéfini le mythe du vampire en accentuant sa dimension romantique et tragique, tout en l'emmenant vers des rivages inédits. On y suivait, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, les aventures de Louis de Pointe-du-Lac, jeune propriétaire terrien, endeuillé par la mort de son frère, et dont le chemin croise celui du vampire Lestat, qui le transforme en créature de la nuit. Œuvre cathartique, Entretien avec un vampire sonnait moins comme une énième variation autour de la figure vampirique que comme une allégorie sur la trajectoire personnelle de son auteur, qui entretenait plus d'un atome crochet avec le personnage de Louis. Il y était à la fois question de deuil, parce que Anne Rice a perdu sa fille en 1972 des suites d'une leucémie, que d'éveil au monde et à la sexualité. C'est un immense succès qui donnera lieu à plusieurs suites canonisées sous l'appellation Les Chroniques des Vampires, et qui sera le fer de lance du mouvement Britlit. Britlit, c'est ce mouvement littéraire qui a vu l'émergence de romans comme, de sagas plutôt, comme Twilight et True Blood.
Vampires sexy, quoi.
Voilà, les vampires sexy, les éphèbes qui ont les dents longues. Le roman sera ensuite adapté au cinéma en 1993 par Neil Jordan avec Brad Pitt et Tom Cruise dans les rôles de Louis et Lestat. Près de 30 ans plus tard, les Confessions du vampire malgré lui reviennent sous la forme d'une série de télé qui prend quelques libertés avec son modèle. Quelques libertés, c'est un euphémisme, pour correspondre davantage à l'ère du temps. Par exemple, la relation homosexuelle implicite entre Louis et Lestat est ici parfaitement assumée dans la série. Ouais. Là, on peut pas. La série assume parfaitement son côté gay-friendly. C'est même l'un des sujets forts de la première et de la deuxième saison. C'est l'acceptation, à la fois en tant qu'homosexuel, en tant que vampire. Le personnage de Louis n'est pas un propriétaire terrien blanc comme dans le roman. C'est un créole. Macro qui fait fortune dans les jeux et la prostitution. À la fois moderne dans ses partis pris et parfaitement respectueux de l'œuvre d'Anne Rice, la série reprend les thèmes chers à l'écrivaine, tout en ajoutant une judicieuse réflexion sur l'art de la narration. par l'entremise du personnage du journaliste interprété par Eric Bocossian et qui recueille les confessions de notre vampire. Mais surtout, au-delà de l'aspect fantastique, Entretien d'un vampire est avant tout une vivante histoire d'amour, pas forcément celle que vous croyez, doublée d'une judicieuse allégorie sur les relations toxiques. Alors non, tout n'est pas toujours très fin, mais on saluera l'audace du showrunner Rollin Jones, à qui l'on doit notamment la nouvelle version de Perry Mason ou Friday Night Lights et Wit, de s'être réapproprié l'œuvre d'Anne Rice sans jamais la trahir, tout en l'amenant vers des inattendus cimes. Autant d'éléments qui font de cette nouvelle itération une adaptation diablement fascinante, à la direction artistique fastueuse et entièrement portée par ses deux interprètes principaux, dont Sam Reid, qui est monstrueux de charisme, dans la peau d'un Lestat plus magnétique que jamais. Un bien mal hommage à l'auteur qui était décédé il y a plus de 2 ans. La première saison est actuellement disponible sur Paramount+, et la seconde est actuellement diffusée aux États-Unis et ne devrait pas tarder à se frayer un chemin chez nous.
Merci Ilan, ça donne envie. C'est la fin de ce numéro d'Un épisode et j'arrête, le podcast de la CS en partenariat avec Beta Série. Merci Ilan Ferry donc de Lire Magazine Littéraire et à Thibaut Gomez-Léal du site Les Numériques. Tu peux repartir avec tes petites présentations.
Exactement.
Pour votre participation, merci d'être venu. Et merci également à Jason à la technique. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau et dernier numéro de l'année. On va prendre un peu des vacances là parce qu'on en a tous bien besoin, je crois. Hein, vous êtes d'accord?
D'ici là, on sera devant Max.
Max. 18 500 heures. Vaut mieux qu'on y passe l'été. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.
Un épisode et j'arrête. Une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.